En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je vais essayer de vous parler d'armes nucléaires. J'ai pas tellement la prétention à vous apprendre quoi que ce soit dans ce domaine qui a été quand même exploré et réexploré depuis 70 ans. Mais quand j'ai regardé le titre du colloque et le titre du chapitre dans lequel on se situe, donc « Guerre et technique et les mutations », je me suis dit finalement c'est quand même plus que normal de parler d'armes nucléaires, parce que quel exemple est plus signifiant et plus absolu que l'arme nucléaire pour penser les rapports entre mutations technologiques et ruptures stratégiques, entre guerre et technique, entre science et stratégie. Et pour explorer cette question-là, et essayer de rester dans ce thème-là, parce que quand on parle d'armes nucléaires, on peut parler pendant des semaines, ce que je voudrais vous proposer, c'est de relire avec vous, et encore une fois, je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit, mais de relire avec vous un certain nombre de penseurs américains en particulier, qui ont, dans l'ensemble de la période de la guerre froide, essentiellement entre le début des années 45-50 et le début des années 90, ont beaucoup écrit, et beaucoup pensé sur l'arme nucléaire et sur le rapport, sur la rupture que cette arme introduisait dans l'art de la guerre, et puis peut-être de les remettre un petit peu en perspective avec quelques penseurs français, mais de façon marginale. Et c'est peut-être un effet de ma formation initiale, mais j'aime bien toujours revenir aux sources originales, aux fondements. Et donc je vais vous proposer là une certaine série de citations traduites en français d'Oppenheimer, de Leslie Grove, de Hermann Kahn, d'Henry Stimson, de Bernard Brody, Thomas Schelling, bref, tous ces gens qu'on connaît tous, qu'on a tous lus à un moment ou à un autre, mais qui ont beaucoup écrit, et notamment beaucoup écrit de choses intéressantes et intelligentes sur les rapports entre guerre et technique à l'ère nucléaire. Pour faire ça, je vais le faire en trois temps, en examinant d'abord pourquoi et comment l'arme nucléaire a été pensée comme une rupture fondamentale dans l'art de la guerre, comme une rupture stratégique au sens le plus pur du terme, mais comment les conséquences à tirer de cette rupture stratégique ont mis du temps à s'installer dans la pensée stratégique occidentale en particulier, et où la rupture technologique et stratégique a été perçue avant d'être pensée et théorisée sous une forme de doctrine nouvelle de la conduite de l'art de la guerre. Dans un deuxième temps, j'essaierai de vous entraîner à travers l'histoire nucléaire de la guerre froide pour essayer d'examiner pourquoi et comment une course qui est à la fois une course technique et politique structure les relations internationales et la possibilité d'une guerre pendant toute la guerre froide, et que cette course permanente entre politique et technique, entre science et stratégie, d'abord aboutit à des choses absurdes, c'est-à-dire en termes d'accumulation d'un nombre d'armes nucléaires qui ne fait plus sens, mais qui révèle aussi tous les paradoxes de l'art de la guerre et tous les dilemmes de l'art de la guerre et de la dissuasion à l'ère nucléaire. Et puis troisièmement, j'essaierai pour le coup de voir l'autre rupture, la grande rupture qui cette fois-ci est politique et stratégique, qui n'est pas technique, mais qui est la fin de la guerre froide et la dissolution du pacte de Varsovie, qui a entraîné beaucoup de littérature et beaucoup de réflexions, y compris officielles en France, sur le devenir de l'arme nucléaire dans un monde post-soviétique, dans un monde post-guerre froide, et pour examiner si aujourd'hui d'autres ruptures, puisque l'arme nucléaire est toujours là malgré la fin de l'URSS, si d'autres ruptures techniques ou technologiques pourraient finalement rendre l'arme nucléaire obsolète. Est-ce que nous vivons à une ère où progressivement l'arme nucléaire est destinée à devenir moins importante, où cette parenthèse ouverte le 16 juillet 1945 pourrait être refermée pour une raison ou pour une autre. Cette rupture stratégique, et j'en commence par là, elle est pensée, elle est exprimée en tout cas, ou pour être plus exact, elle est exprimée plutôt que pensée tout de suite. Immédiatement, dès les premières semaines qui suivent les premières explosions nucléaires, qu'il s'agisse de l'explosion d'Alamogordo du test du 16 juillet ou évidemment des explosions d'Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août. Et Henry Stimson, donc, qui est le secrétaire américain à la guerre, qui est celui qui a présidé le comité de sélection des cibles d'Hiroshima et Nagasaki, déclare même dès avant, en mai 45, qu'au moment où l'arme est en train d'être finalisé, où le projet Manhattan est en train d'être finalisé, il dit ceci: « Nous ne considérons pas l'arme nucléaire réellement comme une nouvelle arme, mais plutôt une invention révolutionnaire dans les relations de l'homme à l'univers. » Rien que ça. Et le Premier ministre Truman, le Premier ministre Attlee britannique et le Canadien King déclarent dans une déclaration pour le coup du 15 novembre 1945, donc on est vraiment dans les toutes premières semaines de l'ère nucléaire, « Nous reconnaissons que l'application des découvertes scientifiques récentes aux méthodes et pratiques de la guerre a placé à la disposition de l'humanité des moyens de destruction jusque-là inconnus, contre lesquels il n'existe pas de défense militaire et dont aucune nation ne peut avoir le monopole de l'emploi. Et dès l'automne 45, le premier vrai grand penseur de l'arme nucléaire, en tout cas dans le monde américain, Bernard Brody, dit « La bombe atomique semble jeter une ombre sur toutes les inventions militaires du passé qui rend toute comparaison ridicule ». Et le même, un peu plus tard, dans son fameux livre qui a été cité tout à l'heure, « Strategy in the Missile Age », va encore plus loin. Il dit « L'avènement de la bombe atomique a jeté une ombre sur l'importance de toutes les inventions passées de l'histoire connue, y compris la poudre à canon, car ses effets n'ont pas été seulement tactiques, mais fondamentalement stratégiques ». Et puis en France, évidemment, pour avoir un contrepoint, l'article que l'amiral Raoul Castex publie dans la Revue de la Défense Nationale à l'automne, en octobre 1945, la première phrase de cet article, qui a été d'ailleurs reproduit récemment dans un numéro spécial de la Revue de la Défense Nationale, est la suivante. « La bombe atomique a éclaté dans le ciel nippon et aussi dans l'histoire même de la guerre comme un engin entièrement nouveau. » Et donc le choc des explosions d'Hiroshima et Nagasaki est telle que la totalité des penseurs, hommes politiques, experts militaires, ex-stratèges, civils de la défense, voient que dès les premiers jours, c'est une rupture majeure de l'histoire contemporaine, de l'art de la guerre, des sciences, qui est intervenue en 1945. Et pourtant, quand on reprend les débats, par exemple, internes à l'administration américaine sur le choix des cibles de Hiroshima et Nagasaki, c'est quand on reprend ces discussions-là, qui ont été aujourd'hui étudiées et publiées, les archives ont été déclassifiées, on voit bien que les conceptions qui président à l'emploi de l'arme nucléaire sont très éloignées de nos doctrines contemporaines et de la dissuasion. Et c'est des doctrines qui sont encore extrêmement imprégnées des concepts de guerre totale du milieu du XXe siècle, et puis des fameuses théories des campagnes aériennes stratégiques de Douai, de l'entre-deux-guerres. Et Brody, d'ailleurs, et je recite Brody, je vais le citer fréquemment, l'écrit dans son livre, il dit « Les armes nucléaires sont intervenues à la fin de la guerre pour sauver Douai de ses erreurs, et maintenant sa philosophie est plus influente que jamais ». Et donc on est vraiment dans une logique d'emploi de l'arme nucléaire, qui est la poursuite des campagnes de bombardement stratégique, et finalement, ce n'est pas la nature de l'arme qui change, c'est l'ampleur de ses effets. On passe d'un... Et finalement, il y a beaucoup d'écrits qui parlent du simple remplacement de tonnes et de tonnes de bombes incendiaires déversées sur les villes allemandes et japonaises par une arme nucléaire pour produire le même effet. Mais la rupture technologique et scientifique de l'arme nucléaire n'est pas encore pensée comme une rupture stratégique à ce point qu'elle entraîne une modification radicale de la stratégie et de l'art de la guerre. Et il y a un article très récent que je vous invite à lire, si ce n'est pas le cas, qui a été publié dans The Atlantic par un journaliste et historien australien qui s'appelle Paul Hamm, et qui précisément a relu les débats internes au comité américain chargé de sélectionner les cibles, et en particulier les critères qui avaient été posés pour la sélection des cibles d'Hiroshima et Nagasaki par le général Leslie Grove, donc le patron du programme Manhattan. Et ces critères sont au nombre de 4. Les cibles devront, 1, posséder une valeur sentimentale aux yeux des Japonais pour briser la volonté de la population de poursuivre le combat. 2, avoir une certaine signification militaire, qu'il s'agisse d'infrastructures militaires proprement dites ou de concentration d'outils de production. 3, être intacte pour démontrer la puissance de cette arme nouvelle et être suffisamment grande. 4, pour convenir à l'ampleur de l'explosion atomique. Et dans ces débats, il y a beaucoup d'objections qui sont formulées, de nature, y compris morale et politique, par Henry Stimson, qui amène d'ailleurs le secrétaire à la guerre américain à écarter de la liste des cibles potentielles la ville de Kyoto, pour des raisons qui sont essentiellement historiques et culturelles, finalement. Mais petit à petit, dans l'évolution des débats au cours de l'été 45, le critère de la cible militaire, petit à petit, de l'infrastructure militaire, devient de moins en moins important au profit des autres critères. Et l'objectif est bien, fondamentalement, n'est pas un objectif militaire au sens classique du terme de destruction d'une infrastructure de production militaire ou d'une cible de nature proprement militaire, mais l'objectif, dans le choix de la cible, devient l'ampleur des victimes et le critère des démographiques, c'est-à-dire fondamentalement une destruction qui est destinée à briser l'esprit de résistance japonais et à briser le moral japonais, et qui n'est pas tellement différente des campagnes de bombardement incendiaire qui étaient aussi destinées, certes, à briser l'effort de guerre et la capacité de production à la guerre de l'Allemagne ou du Japon, mais qui étaient avant tout destinées à briser le moral et briser l'esprit de résistance d'une nation entière, puisque la guerre est totale et que la nation entière est engagée dans la guerre. Et donc la radicalité de l'arme nucléaire, sa puissance, elle est perçue, mais la rupture stratégique elle-même n'est pas encore pensée, et on est dans une logique d'arme qui est une super arme conventionnelle, qui est une arme d'agression ultime, qui est une arme de surprise et de terreur. C'est celle qui, lancée la première, et puis on est dans une situation de monopole, permet de gagner à coup sûr la guerre. Robert Oppenheimer, par exemple, la conçoit ainsi, c'est ainsi qu'il décrit cette arme dans la continuité de la stratégie de Douai. Et là encore, j'ai une autre citation de toujours du même Brody dans son premier livre, qui paraît en 1946, mais qui est la reproduction d'un article qu'il avait publié dans le journal de Yale à l'automne 1945. Il dit « Reconnaître cette puissance est une chose, en tirer toutes les implications stratégiques en est une autre ». Et un peu plus loin, le même dit « Nos autorités militaires devront... » On est à l'automne 45. Hein. « Nos autorités militaires devront faire un effort d'une ampleur sans précédent pour réviser les concepts militaires hérités du passé. Ce ne sera pas chose aisée. Elles doivent être prêtes à écarter toute l'expérience acquise de la plus dure façon dans la guerre récente comme potentiellement inutile. » Donc on n'a pas besoin ici, je ne vais pas rentrer dans ce débat historique pour savoir si l'arme nucléaire et l'emploi de l'arme nucléaire à la guerre dans le Pacifique a permis ou non effectivement d'abréger et de terminer la Deuxième Guerre mondiale. C'est un débat qui est intéressant en tant que tel, mais qui nous emmènerait trop loin. Ce que je veux juste dire ici, c'est que la mutation technologique, qui est perçue à sa juste mesure par les contemporains, précède, et de très loin, l'évolution de la rupture stratégique telle qu'elle sera plus tard pensée et exprimée. Et il faut plusieurs années... l'invention du thermonucléaire, l'invention d'un certain nombre d'innovations techniques sur lesquelles je reviendrai, et la découverte de la vulnérabilité potentielle américaine, donc d'une vulnérabilité réciproque plus tard, pour que la théorie classique de la dissuasion, qu'on associe nous, surtout nous Français, à l'arme nucléaire, soit pleinement adoptée, et que l'art de la guerre soit pleinement transformé par cette rupture technologique, scientifique et stratégique initiale. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, le risque de rechute, c'est-à-dire de revenir à une logique de l'arme nucléaire qui est certes différente dans sa nature et dans ses effets, mais qui, après tout, peut être utilisée comme une arme comme les autres, ces risques de rechute sont permanents. On connaît tous les débats qui ont entouré les manœuvres du général MacArthur en Corée, au moment de la guerre de Corée, et le débat avec Eisenhower puis Truman sur l'emploi de l'arme nucléaire dans le contexte d'une manœuvre militaire conventionnelle américaine mise en difficulté par l'intervention de la Chine et de sa volonté d'utiliser l'arme nucléaire comme un instrument de renversement d'une asymétrie ou d'une situation d'infériorité sur le théâtre. In fine, la décision est prise de ne pas, et aboutit d'ailleurs au renvoi de MacArthur. Mais cette tentation est là, et d'ailleurs elle continue pendant toute la durée de la guerre froide, et encore aujourd'hui. Et l'idée que les armes nucléaires ne sont pas simplement des armes destinées à la dissuasion, mais qu'il y a des possibilités de coercition nucléaire, d'intimidation nucléaire, d'emploi nucléaire dans une logique de bataille, perdure totalement. Les armes nucléaires tactiques développées pendant toute la guerre froide en sont un bon exemple au sein de l'Alliance Atlantique, par exemple. Mais encore aujourd'hui, toute une série d'États dans le monde, on pourra y revenir si vous le souhaitez, ont des théories, des doctrines d'emploi de l'arme nucléaire qui sont très éloignées de doctrines de dissuasion. Et donc, l'émergence de la théorie de la dissuasion, l'émergence des concepts de la dissuasion, ce qui reste aujourd'hui évidemment la forme la plus aboutie et pour nous, notamment français, la forme la plus stable de la stratégie à l'ère nucléaire, c'est une phrase que Thérèse Delpech utilisait dans son dernier ouvrage qui est paru de façon posthume sur l'idée que la dissuasion à l'ère nucléaire est la stratégie et la doctrine la plus stable et la plus sûre pour assurer la sécurité internationale. Mais cette conclusion-là n'est pas tirée immédiatement, et progressivement s'impose l'idée que l'arme nucléaire, et c'est là qu'on va au bout de la logique de la rupture technologique et scientifique, de la rupture technique, que l'arme n'a plus pour objectif de gagner la guerre, mais qu'elle a pour objectif fondamental de l'éviter et de l'empêcher. Et cette rupture stratégique-là, qui est au cœur de la doctrine de dissuasion, elle met du temps. Certes, vous avez dès les premiers mois, je dirais, par exemple, un Bernard Brody, lui encore, qui dit dès l'automne 1945, dans ce même article, jusqu'à présent, l'objectif principal de notre institution militaire a été de gagner les guerres. Désormais, son principal objectif est de les éviter. Elle ne peut à peu près avoir aucun autre objectif utile. De la même même façon, vous avez une autre phrase d'Oppenheimer qui pourtant plaide pour l'emploi dans les discussions précisément du comité de ciblage sur Hiroshima et Nagasaki, qui cherche à écarter l'horreur de l'emploi à la guerre de ces armes en disant, par exemple, « Les hommes désirent la paix depuis bien avant l'avènement des armes atomiques, mais la bombe atomique a enfoncé le clou de façon définitive, elle a rendu insupportable la perspective d'une guerre ». Et cette évolution-là, évidemment rendue encore plus forte à l'âge thermonucléaire par l'augmentation des puissances individuelles des armes, elle est consubstantielle aujourd'hui à l'ère nucléaire. Et là encore, c'est des choses qui sont très connues, mais je trouve que ça vaut le coup de revenir sur ses premiers auteurs. Bernard Brody, toujours le même, dit que finalement, la singularité de l'ère nucléaire, c'est qu'il suffit juste d'une bonne chance que les représailles par l'arme nucléaire se matérialisent pour que l'arme de dissuasion soit efficace. Et il dit même, la prévision est plus importante que le fait. Autrement dit, on s'éloigne encore un peu plus de l'idée de l'emploi à la guerre. Par exemple, je vais encore vous citer Bernard Brody dans son livre The Absolute Weapon, ouvre son livre par cette phrase: la plupart de ceux qui s'expriment en public sur l'arme atomique ont fait l'hypothèse que la guerre et l'anéantissement étaient désormais complètement synonymes. Et on pourrait continuer comme ça à l'envi dans tous les grands ouvrages des années 40 et 50, surtout des années 50, sur l'idée que la guerre à l'ère nucléaire est synonyme de l'anéantissement et de la disparition de l'humanité. Il y a une chose, je ne sais pas si vous avez relu récemment ou si vous avez le souvenir de l'ouvrage de Brody, Strategy in the Missile Age, qui s'ouvre, les premières lignes du livre sont la description de la guerre céleste entre Raphaël et Satan. Et ça en dit tellement long sur la façon dont est conçue la guerre à l'ère nucléaire pendant une grande partie de la guerre froide. Et puis ensuite, vous avez cette idée que l'arme nucléaire transforme la guerre en la rendant juste irraisonnable, impossible, pour citer là encore un autre auteur, cette fois-ci britannique, beaucoup plus tardif, qui est Michael Quinlan, ce grand penseur de la dissuasion britannique, qui dit, par exemple, qui théorise finalement cette idée-là, et dans des phrases que je trouve très belles: « Nous voulons changer pour une situation dans laquelle, bien que les relations d'adversaires continueront à exister d'une façon ou d'une autre, les gens acceptent simplement que la guerre est supprimée, qu'elle n'est tout simplement plus une option. Puisqu'existe une puissance infinie des deux côtés, la guerre est devenue au sens le plus strict une absurdité. La guerre est une compétition de force, écrit-il. Si la force est devenue infinie des deux côtés, et c'est précisément ce que les armes nucléaires et leurs vecteurs ont réalisé, une compétition pour savoir qui est le plus fort est un non-sens logique complet. » Et vous retrouvez derrière, pour avoir le contrepoint français, un Pierre-Marie Gallois qui cherche évidemment à écarter, alors pour le coup, l'idée de la guerre générale, la guerre entre puissances majeures, et peut-être pas de toutes les guerres. Et puis cette phrase qui est à la fois simple et belle, je trouve, de la dissuasion française, qui la résume, je trouve, le mieux, c'est celle de Mitterrand en 94, qui dit « La stratégie de la France, pays détenteur de l'arme nucléaire, n'est ni offensive ni défensive, elle est de dissuasion, ce qui veut dire, en termes encore plus simples, qu'elle a pour but essentiel d'empêcher le déclenchement de la guerre. » Alors évidemment, dans tout ça, et y compris dans ces phrases-là de la doctrine française de dissuasion, on se garde, la doctrine française d'ailleurs se garde bien de préciser, ce que ne fait pas la doctrine américaine, que l'arme nucléaire peut avoir pour objet d'empêcher la guerre, mais que si par hasard la guerre devait être déclenchée, elle a aussi pour objet d'en prévenir l'escalade aux extrêmes. Et ça, c'est vraiment un élément de la pensée stratégique américaine qui irrigue la totalité des grands écrits des années 50 et 60 sur la dissuasion à l'intérieur de la guerre, la intra-war deterrence, sur la possibilité de guerre nucléaire limitée. Je ne vais pas détailler tout ça en détail, mais qui amène progressivement, dans le raffinement de la pensée stratégique américaine, à faire évoluer la doctrine et donc les forces. Le passage de la doctrine des représailles massives élaborée et présentée par Dulles en 1954 à la doctrine de McNamara en 1962 au discours de Ann Arbor sur la riposte graduée, et cette évolution-là qui rentre et qui intègre bien d'autres choses sur lesquelles je vais revenir, mais notamment cette idée que l'arme nucléaire peut parfois échouer, la dissuasion peut échouer, et que dans cette logique-là, il est bien de savoir maîtriser la gestion d'une escalade nucléaire dans une guerre. D'ailleurs, c'est ça, et c'est pas Christian Malisse que je vais apprendre quoi que ce soit en la matière, mais qui suscite cet énorme débat, ce grand débat français, notamment entre Aron et Gallois. Mais c'est cet ensemble-là qui fait que la stratégie nucléaire naît vraiment. Et la stratégie nucléaire, tous les débats de la grande stratégie nucléaire, mettent quand même un certain nombre d'années à émerger après la rupture stratégique initiale de 45. Et d'ailleurs, dans un schéma où la répartition des rôles entre civils et militaires pour penser la guerre est radicalement transformée. Si l'arme nucléaire est effectivement là pour empêcher la guerre de façon crédible, il faut certes analyser l'impact, les enchaînements de circonstances, les scénarios de crise, d'enchaînement militaire de la guerre, mais vous avez cette phrase formidable, je trouve, qui est citée par Fred Kaplan dans un de ses livres, qui s'appelle « The Wizards of Armageddon », où il cite un jeune analyste qui doit être de la Rande, de toute façon ils étaient tous de la Rande, civil, qui est contesté dans ses analyses par un général militaire américain qui lui dit qu'il est bien gentil mais qu'il est un peu jeune, vous êtes un peu jeune mon brave, pour venir expliquer aux militaires américains comment on conduit la guerre, et où il a cette phrase que je trouve formidable, il dit: mon général, j'ai combattu dans autant de guerres nucléaires que vous. General, I have fought as many nuclear wars as you have. Et donc, c'est un domaine dans lequel, beaucoup plus que dans l'ensemble des grandes innovations techniques, je pense, qui ont modifié l'art de la guerre dans l'histoire, c'est un domaine dans lequel la relation pour penser la stratégie, et pour penser y compris la stratégie militaire, est profondément transformée, et les civils prennent une place qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est à toute l'école de la Rande. Mais je vais vous citer aussi une phrase d'Hermann Kahn, pour le coup, de son bouquin qui s'appelle « On Thermonuclear War ». Il dit « Les problèmes non... » C'est la version Hermann Kahn, donc c'est beaucoup plus ésotérique, je trouve, et plus compliqué à lire. Mais les problèmes non réalisés et non expérimentés, mais historiquement plausibles, des guerres mondiales 3 et 4 sont bien plus valables que les problèmes déjà expérimentés des guerres mondiales 1 et 2. Et derrière, vous avez alors tout ça se développe jusqu'à l'absurde, d'ailleurs. Hein. On cite beaucoup Thomas Schelling, je reviendrai sur lui un peu plus tard, mais cet économiste qui utilise la théorie des jeux dans le déroulement des scénarios de guerre nucléaire aboutit à des choses qui sont progressivement déconnectées de la réalité militaire et des enjeux réels des relations de puissance à l'ère nucléaire. Deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, et là encore, pardonnez-moi, mais je vais vous entraîner à travers aussi un certain nombre de citations. La deuxième question que je me suis posée en préparant cet exposé, cette communication, c'est qu'on est au seuil donc de l'ère nucléaire, on est en 45, il y a deux armes nucléaires qui explosent, trois avec celle d'Alamogordo, puis plus rien. Et puis on se retrouve, si on fait une avancée rapide dans l'histoire, on se retrouve au milieu des années 80, en 1996, avec les chiffres publics sont à peu près de 70 000 armes nucléaires. Donc pour une arme qui est destinée à ne pas être employée, jamais, à ne jamais être détonée, comment est-ce qu'on passe en 50 ans d'une situation où, d'ailleurs, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, les Américains n'ont plus d'armes nucléaires opérationnelles, fondamentalement. Et c'est l'une des choses, d'ailleurs, qui a été dite récemment par Paul Nitz, qui participait au débat dans la guerre de Corée. MacArthur aurait été bien... Enfin, Truman aurait été bien embêté pour ordonner à MacArthur d'employer des armes nucléaires, puisque l'arsenal nucléaire américain n'était juste non existant, qu'il aurait fallu quelques années pour reproduire des armes. Et donc, comment on passe de cette situation à la situation extrême opposée, où on a de quoi détruire je ne sais combien de fois la Terre au milieu des années 80. Et pourquoi, comment on passe de cette situation, par quelle combinaison de progrès technologiques, d'évolution de la stratégie, d'évolution de la politique internationale, Washington et Moscou arrivent à de telles extrémités en termes de nombre d'armes. Et puis dans le contrepoint français, pourquoi est-ce que certains États choisissent de rester à l'écart de cette course aux armements? Nous, on est au pic de la guerre froide, au milieu des années 80, à peu près 600 armes. Aujourd'hui, on est redescendu de moitié, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Et comment est-ce que c'est simplement une question financière, technique, ou est-ce que dans cette évolution de la course aux armements de la guerre froide, il y a des facteurs qui sont de nature stratégique ou politique qui précipitent cette évolution? Je dirais qu'il y a deux grandes révolutions techniques et technologiques à l'intérieur de l'ère nucléaire, donc à l'intérieur de la guerre froide, et je vais les passer en revue. La première, c'est évidemment le passage au thermonucléaire et la miniaturisation des armes qui va avec, qui permet d'avoir des puissances beaucoup plus importantes dans des volumes et des masses beaucoup plus faibles. et cette révolution technologique à l'intérieur même de l'ère nucléaire, qui intervient au début des années 50, 52 aux États-Unis, on estime que c'est autour de 55 en URSS, même s'il y a des incertitudes sur les premiers essais thermonucléaires, est-ce que c'était de la fission exaltée ou est-ce que c'était du vrai thermonucléaire. Bref, disons qu'au milieu des années 50, les deux super grands passent au thermonucléaire. Nous, il faudra quelques années, ça fait partie des sujets d'énervement du général de Gaulle, mais on y arrive en 68. Mais le principe donc, qui est à l'œuvre, la fusion, qui démultiplie l'énergie, encore une fois, dans une masse et un volume plus faibles, ne fait que rendre la guerre plus terrifiante encore. Et c'est pas un hasard si Herman Kahn intitule son livre, non pas de la guerre nucléaire, mais de la guerre thermonucléaire. Et pour vous juste vous rappeler, si vous ne les aviez plus en tête, quelques ordres de grandeur, la plus grosse explosion nucléaire jamais conduite, donc l'essai nucléaire le plus important jamais conduit, en plein milieu de la crise de Cuba, en 62 par l'URSS, la Tsar Bomba, c'est un peu plus de 50 mégatonnes. Et 50 mégatonnes, en plus, c'était une arme détarée. C'est-à-dire que les soviétiques avaient limité la puissance de l'arme, parce qu'autrement, ils se disaient que ça faisait un peu trop. Et pour vous donner juste les échelles, Hiroshima, c'est 14 kilotonnes. Donc on change de dimension, d'échelle, et on change presque de nature même, tellement l'écart de puissance est important. Et donc la destruction de l'humanité, qui était déjà pensée dès Hiroshima et Nagasaki, devient vraiment quelque chose de vraiment possible. Les armes mégatoniques rentrent dans les arsenaux, la miniaturisation a ses effets, et puis on a une triple course à la puissance, à la miniaturisation et à la précision, je vais y revenir, qui s'engage à partir des années 50 et qui ont un impact direct sur l'évolution de la stratégie. Et je parlais tout à l'heure du passage des représailles massives à la riposte graduée entre 54 et 62. Mais fondamentalement, il y a la vulnérabilité du territoire américain permise par les progrès des missiles balistiques et le fameux missile gap dont on a déjà parlé, qui est un mythe, mais qui est un mythe qui a un impact dans le monde réel, en tout cas au début des années 60, mais est quand même fondamentalement lié à la perception d'une vulnérabilité de destruction totale par l'arme mégatonique du territoire américain et à la nécessité pour les Américains de trouver une stratégie de cette nouvelle ère nucléaire, de cette rupture technologique à l'intérieur même de l'ère nucléaire qui soit davantage adaptée à la situation. Et c'est une phrase que je ne peux pas m'empêcher de citer de Brody, là encore, qui dit, parce qu'évidemment on est dans une logique d'armes extrêmement puissantes, peu précises, et donc avec des logiques d'anticité et de destruction antidémographique. Et il dit, on ne tue pas des lapins avec des fusils d'éléphants, surtout quand il existe des éléphants disponibles. One does not shoot rabbits with elephant guns, especially when there are elephants available. Et donc ça c'est le cœur des représailles massives, évidemment. Mais on est dans une logique de vraie rupture technologique à l'intérieur qui a un impact sur la conduite de la guerre ou sur la pensée de la guerre. Donc la technique a encore une deuxième influence à l'ère nucléaire, c'est qu'elle a une deuxième rupture. La deuxième révolution technologique à l'intérieur même de cette ère nucléaire, ça concerne là plus tellement les armes elles-mêmes, mais les vecteurs. Et l'arme nucléaire, les tout débuts de l'ère nucléaire, de la nucléarisation de la guerre froide, l'arme est d'abord une arme aérienne, fondamentalement une arme aérienne. D'ailleurs, les premiers ouvrages de Bernard Brody, évidemment, ne contiennent rien sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, puisqu'ils n'existent pas, ils ne sont même pas pensés. Et donc la rupture que constitue l'apparition d'une vraie capacité invulnérable de deuxième frappe n'est pas pensée au début. Et puis le développement des missiles eux-mêmes, ce fameux missile gap dont on a déjà parlé, sur lequel donc, je ne vais pas revenir, le lancement de Spoutnik, de Gagarin, etc. Et d'ailleurs, je suis frappé, je fais juste une parenthèse, mais que dans le débat français, dans le débat européen, dans notre conscience historique, on est toujours ces images mythiques de la conquête de la Lune, le discours de Kennedy, les premiers pas d'Armstrong sur la Lune, et qu'on ait oublié que fondamentalement, c'est une décision de stratégie nucléaire que prennent les Américains. Alors peut-être que vous l'avez évidemment parfaitement en tête, mais ça n'est pas une conscience que nous avons. Et moi, pour vous donner cette anecdote-là, mon père est resté fasciné par l'alunissage de Armstrong. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que c'était une décision de stratégie nucléaire américaine fondamentale. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais c'est la deuxième rupture technologique, donc l'introduction de nouveaux types de vecteurs, de nouveaux types de plateformes de lancement, les missiles balistiques qui s'allongent et surtout qui deviennent plus précis. Et cette précision et cette vulnérabilité réciproque, donc c'est le deuxième élément pour le passage à la riposte graduée américaine, il faut le thermonucléaire et évidemment les missiles qui rendent le territoire américain vulnérable. Et puis, dans cette double révolution, et encore j'insiste, hein, la miniaturisation et le thermonucléaire d'un côté, les vecteurs, les plateformes de l'autre, et la précision qui va avec, cette double révolution, évidemment, je vous ai parlé de l'évolution de la doctrine américaine, mais toutes les grandes questions qui courent la stratégie nucléaire et la pensée stratégique nucléaire de la guerre froide découlent de ces deux révolutions technologiques. Et je cite ces grandes questions. Est-ce qu'il existe une incitation potentielle à une première frappe dans un dilemme classique de « use it or lose it » ? Est-ce qu'une guerre thermonucléaire peut être gagnée ? Est-ce qu'il faut avoir une capacité de première frappe crédible, qui est un élément central du bouquin d'Hermann Kahn ? Comment est-ce qu'on garantit une seconde frappe invulnérable ? Est-ce qu'une fois que le conflit est engagé, on peut maîtriser l'escalade et conserver à la guerre nucléaire un caractère limité ? Combien d'armes sont suffisantes ? Qu'est-ce que c'est que la dissuasion minimale ou finie dans le livre d'Hermann Kahn ? Comment est-ce qu'on garantit la crédibilité des représailles ? Comment est-ce qu'on évite que chacune des deux parties n'ait, dit encore une fois Hermann Kahn, une peur réciproque d'une attaque par surprise ? Une reciprocal fear of surprise attack, qui est l'un des éléments fondamentaux du dilemme de la guerre froide, dans lequel finalement on a toujours peur que les manœuvres défensives que prend l'adversaire pour se prémunir d'une première frappe ne soit en fait la préparation d'une première frappe qui viendra décapiter ou détruire le pays. Et toutes ces questions-là, sur la guerre limitée, est-ce qu'il faut une capacité indépendante en dehors de la dissuasion stratégique pour conduire une guerre nucléaire limitée, qui court l'ouvrage de Bernard Brody sur Strategy in the Missile Age, tous ces dilemmes stratégiques, ils se posent, parce que la technique les autorise. Parce que la précision accrue des missiles autorise le ciblage, par exemple, de contre-forces. Il est inenvisageable de rentrer dans une logique de contre-force tant que les missiles ne sont pas précis. La multiplication des vecteurs et des plateformes au niveau tactique et sous-stratégique que permet la miniaturisation permet de penser l'escalade d'une guerre nucléaire dans un contexte régional limité, par exemple. Et donc la maîtrise de l'escalade à l'intérieur d'un conflit, évidemment, l'invention des sous-marins nucléaires d'engins, leur déploiement, permet, par l'invulnérabilité de la deuxième frappe qu'ils permettent, de la même façon que les missiles mobiles nombreux, que permet les progrès techniques, notamment sur le carburant, tout ça, évidemment, il y a une dialectique permanente pendant toute la guerre froide entre la guerre et la technique, entre la science et la stratégie. Et c'est quand même l'argument fondamental et l'explication fondamentale de cette course aux armements immense qui court toute la guerre froide et qui aboutit à ces chiffres d'arsenaux nucléaires considérables. Et pour une raison simple, c'est que l'objectif de stabilité stratégique, ce fameux Graal de l'ère nucléaire, même après les crises de Berlin et de Cuba dans les années 60, il n'a jamais été ni défini, ni vraiment atteint. Et parce qu'on revient, et je veux insister là-dessus, sur ce paradoxe fondamental, c'est que chacun des adversaires, en particulier les deux grands, craint que l'autre ne se dote, grâce à la technique, d'un avantage comparatif qui, loin de stabiliser les relations, va inciter cet adversaire a lancé une première attaque désarmante ou incapacitante par surprise. Et c'est cette crainte permanente de la décapitation et de la première frappe adverse où on interprète par le pire ce qui est en train de préparer l'adversaire comme stratégie fondamentalement défensive, qu'on aboutit à ces choses absurdes qui vont jusqu'à, vous savez, le fameux système périmètre soviétique qui permet de lancer la contre-attaque soviétique de façon automatique, sans homme dans la no man in the loop, ce que certains ont appelé, et ça a été célébré dans un certain nombre de films, le doomsday machine, mais on aboutit à des choses qui sont assez absurdes. Et puis on pourrait parler évidemment du mirvage des têtes que permet la miniaturisation, de ce que ça apporte encore dans le passage à la doctrine Schlesinger de 1974 qui va au bout de la logique de contre-force et finalement d'une logique d'emploi de l'arme nucléaire qui était déjà pensée par Hermann Kahn dans son livre dès les années 60 sur le counterforce as an insurance. La dissuasion nucléaire, dit Hermann Kahn, l'arme nucléaire a pour fonction fondamentale d'empêcher la guerre et de dissuader l'adversaire, mais quand même, dit-il avec un pragmatisme et un bon sens bien américain, si jamais elle devait éclater, on serait quand même mieux s'il y a moins de morts. Et donc si, une fois que la dissuasion a échoué et que la guerre nucléaire a éclaté, je peux casser un certain nombre de missiles ou de systèmes nucléaires de l'adversaire, ça fera moins de morts chez moi, et donc j'ai une capacité de survie de la nation américaine à une guerre nucléaire plus importante, et donc je me porte mieux. Mais tous ces dilemmes-là, là encore, je vais reciter une phrase qui est très belle, je trouve. « Je suis d'accord avec notre politique nationale actuelle, dit Hermann Kahn, que le premier objectif de nos forces militaires est de dissuader la guerre. Pourtant, je pense qu'il existe un second objectif important, protéger la vie et la propriété si la guerre éclate. » Et donc, dans un schéma où le suicide collectif, là, cette idée de destruction, d'annihilation, n'est plus valable, eh bien, on rentre dans des logiques, des doctrines qui sont permises par la technique et qui sont développées par la stratégie officielle américaine qui aboutissent à une course aux armements nucléaires qu'on connaît. Mais il ne faudrait quand même pas être trop simpliste. Et ces pics, je dirais, des arsenaux nucléaires, cette course au nombre, a aussi d'autres explications que cette dialectique permanente entre la guerre et la technique. Il y a par exemple, des dynamiques propres de nature purement technique où, dans des systèmes politiques et sociaux particuliers, ce que la technique permet, eh bien, on le fait avant même de se poser de la question de à quoi ça va servir. Là aussi, vous avez peut-être ces choses-là en tête, mais Je les redis parce qu'on a vécu des ères parfois absurdes. Les Américains ont un programme dans toutes les années 60 et au début des années 70 d'explosion nucléaire pacifique, où il s'agit de mettre au point des armes nucléaires, donc pas des armes nucléaires, des explosifs nucléaires qui ont un objectif de terrassement, de génie civil, de creusement de canal, et qui est destiné à employer l'énergie nucléaire explosive à d'autres fins que la guerre. Et c'est d'ailleurs ça qui permet aux Indiens en 1974 de dire que leur essai nucléaire, c'est un programme qui s'appelle Plowshare, et qui permet de dire aux Indiens que leur essai nucléaire n'est évidemment pas l'essai d'une arme nucléaire, mais que c'était une explosion nucléaire pacifique. Ou d'autres choses totalement exotiques, et là je pense que Xavier s'en rappellera, l'opération Starfish Prime, où les Américains se disent que c'est quand même très intéressant d'avoir l'effet électromagnétique d'une arme nucléaire explosée en très haute altitude et que ça vaut le coup d'essayer. Et donc ils le font en 62, hein, en plein milieu de la crise de Cuba aussi, en très haute altitude. Sauf qu'évidemment, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ça met à terre la totalité du réseau électrique d'Hawaï et ça casse la moitié de leurs satellites en vol. Et donc ils abandonnent évidemment rapidement, de la même façon qu'ils abandonnent l'expérience Plowshare, parce qu'ils se rendent compte que, oui, pour faire du terrassement ou de l'ouverture de canal, ça présente quelques inconvénients secondaires en termes de radiation. Mais par exemple, on a oublié aussi, notamment nous en France, que dans la doctrine militaire de l'Alliance, il y a un canon de 155 mm qui est nucléaire. Il y a de l'artillerie nucléaire, qu'il y a un concept de déploiement de forces spéciales derrière les lignes ennemies vers la passe de Fulda, où les forces spéciales de l'Alliance sont destinées à être parachutées derrière les lignes, poser un explosif nucléaire de sabotage et s'exfiltrer par la mer. Donc la technique rendant possible toute une série de choses, on aboutit à un foisonnement d'armes, de types de systèmes d'armes extrêmement importants. Et puis, à l'autre bout, je dirais, il y a des impératifs de nature exclusivement politique qui justifient aussi cette course. Donc il y a des choses qui sont en dehors de cette dialectique entre la technique et la guerre. Et là, j'en citerai simplement deux. Cette fameuse notion de parité stratégique, qui n'a jamais été vraiment définie, mais qui est encore moins justifiée, mais qui finalement transforme le moyen, l'arme nucléaire, en objectif. Ce qui compte, c'est le nombre d'armes totales, qui est une fin en soi, c'est un élément de statut international d'un État, c'est un élément de comparaison internationale de puissance dans l'absolu, et donc ce qui compte, c'est d'avoir le même nombre que l'adversaire. Et dans cette course réciproque américano-soviétique, les pics de la guerre froide, d'ailleurs les 70 000 armes, il y a un très fort déséquilibre quantitatif, pardon, au profit des soviétiques, mais c'est un élément de la course aux armements, et ça n'a pas de logique proprement stratégique ou militaire, c'est une logique de nature politique, où la parité est en tant que telle un outil de développement des arsenaux. Et puis, dans cette même logique d'impératif politique, je ne vais pas décider trop longuement là-dessus, mais la notion de dissuasion élargie, qui est un élément fondamental de l'évolution de la stratégie américaine, et que nous avons, nous, Français, un peu de mal à comprendre, puisque nous avons toujours refusé le principe même de la dissuasion élargie, mais la dissuasion élargie et les dilemmes particuliers stratégiques que pose le concept de dissuasion élargie aux Américains est aussi un facteur, évidemment, de l'évolution des arsenaux, parce que les Américains, et très tôt, vous avez Thomas Schelling, Herman Kahn, qui très tôt disent c'est horriblement difficile de faire de la dissuasion élargie. Et ce qui est plus difficile dans la dissuasion élargie, c'est de rassurer l'allié, c'est beaucoup plus facile de dissuader l'adversaire. Il y a des phrases, et il y a une phrase qui est a posteriori, je suppose qu'on l'a lue à l'époque, mais cette phrase d'Herman Kahn qui dit de façon très brutale et clinique la difficulté de la dissuasion élargie, il dit « La décision atroce de déclencher une guerre thermonucléaire totale serait la nôtre. Il existe sûrement une question sérieuse sur notre disposition, à nous, Américains, à respecter nos obligations juridiques internationales dans de telles circonstances. Quelle meilleure reconnaissance de la validité des doutes du général de Gaulle au début des années 60 sur l'évolution de la doctrine américaine et est-ce que les Américains seraient prêts à mourir pour Paris. Mais donc tout ça pour dire que, et toute la multiplication du nombre d'armes nucléaires, notamment tactiques américaines, qui sont déployées en Europe dans toute la décennie 60 et la décennie 70, a aussi cet effet de réassurance politique des alliés et évidemment aussi de compenser une asymétrie conventionnelle avec l'URSS, mais extrêmement importante. Et donc, vous avez un mouvement en trois temps de course aux armements, la course au nombre d'armes, la course aux vecteurs, la course aux mirvages des années 50, les années 60, les années 70, qui est le résultat de cette dialectique permanente entre la guerre et la technique, mais qui est aussi un élément plus général de l'évolution de la stratégie nucléaire. Et la question fondamentale, et il faut toujours se rappeler de ça dans l'évaluation de la doctrine américaine, c'est comment le problème américain, qui n'est pas le nôtre, le problème américain, c'est comment est-ce que je vais rendre la dissuasion parfaitement crédible en démontrant que l'adversaire perdrait une guerre nucléaire à tous les coups, tout en évitant de le convaincre que l'objectif poursuivi n'était plus la dissuasion mais la victoire. Et vous avez toute une littérature de la guerre froide sur la théorie de la victoire. Je vais terminer en conclusion, parce que je pense que j'ai déjà été trop long,
s'il vous plaît, en
disant qu'aujourd'hui, depuis la fin de la guerre froide, cette question qui a souvent été posée de nouvelles innovations technologiques, de nouvelles ruptures technologiques qui rendraient l'arme nucléaire obsolète, eh bien aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que, en tout cas, ça n'est pas démontré. Ça n'est pas démontré ni d'un point de vue stratégique, d'abord parce qu'un certain nombre de pays et d'États dans le monde ont, depuis la guerre froide, eu une tendance à augmenter la place et l'importance des armes nucléaires dans leur doctrine de défense et dans leur stratégie militaire, que ces États ont pu adopter des doctrines et des stratégies qui vont bien au-delà de la dissuasion et qui sont beaucoup plus proches des théories de MacArthur ou de l'emploi pendant la Deuxième Guerre mondiale de l'arme nucléaire. Donc elles sont encore présentes, malgré cette espèce de tendance européenne et occidentale à avoir une décroissance progressive de la place et de l'importance de l'arme nucléaire, premièrement. Et deuxièmement, toutes les innovations technologiques, que ce soit dans le domaine conventionnel, les frappes de précision, la défense antimissile, même le cyber, même la capacité à mettre par terre un système spatial complet, tout ce qui aurait pu avoir des effets de dissuasion aussi importants que l'arme nucléaire, tous ces éléments-là ont aujourd'hui absolument pas permis de dépasser l'ère nucléaire. Et même dans un discours Obama, aujourd'hui, donc qui reste encore cette vision du monde libre d'armes nucléaires, où on a une décroissance à nouveau dans la Nuclear Posture Review de 2010 de la place et de l'importance de l'arme nucléaire dans la doctrine militaire américaine, eh bien c'est le président qui va consacrer le plus d'argent à la modernisation du complexe nucléaire militaire américain, puisqu'on parle dans les décennies qui viennent, on parle jusqu'à entre 700 et 1000 milliards de dollars de modernisation dans les 30 ans qui viennent. Et ça, c'est un programme qui s'engage dès maintenant. Donc on est certainement pas passé au-delà de l'ère nucléaire, et il n'y a pas d'innovation technologique. Et je vous terminerai par une citation, parce que je vous ai beaucoup embêté avec des citations, qui est pour le coup une citation de P12, et qui dit, dès 51, dans son message de Noël, une question fondamentale que je trouve très belle: « N'est-ce pas une sorte de matérialisme pratique, de sentimentalité superficielle, que de considérer le problème de la paix uniquement ou principalement au regard de l'existence et de la menace de ces armes nucléaires ? Le désarmement, à savoir la réduction mutuelle et simultanée des armements que nous avons toujours souhaité et invoqué, n'est pas une garantie solide de paix durable si elle n'est pas accompagnée par l'abolition des armes, de la haine, de l'avidité et de l'envie démesurée de prestige. » Thank you.